Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public au théâtre de l'Alliance française pour un masque et la plume consacré à nouveau à l'actualité du cinéma avec Charlotte Lipinska de Vogue, Eva Bétan de France Inter, Jean-Marc Lalanne des Inrecuptibles et Michel Simon de Positif. On parle ce soir de Stillwater, de Tout s'est bien passé, de La proie du nombre, de Sans signes particuliers, de la Troisième Guerre et de la voix d'Aïda. Dans le courrier de la semaine, je vous épargne pour l'instant le volumineux courrier reçu à propos de Dune. Ce sera pour dans 15 jours. Plein de réactions, en revanche, à propos de France de Bruno Dumont. La plupart, désolé Jean-Marc, n'étant pas totalement tendre. Pour Cathy Marnier de Nogent-sur-Marne, ce film est insupportable. Gwenaëlle d'Arles, de la ville d'Arles, remercie le masque d'avoir eu le courage de prendre le contre-pied d'une critique curieusement très élogieuse. France, ce film est une grosse daube ultra-démagogique mal jouée et mal filmée. Michel Belin de Boulogne-Billancourt trouve France inepte et grossier, trop de laideur, trop de lourdeur, trop de mélo, trop de cynisme, trop de tape à l'œil, trop de rien. Yves Guégan de Rousset dans les Bouches-du-Rhône n'a pas supporté la déclinaison de Léa part à la guerre, Léa est triste, Léa pleure, Léa est désespérée, Léa est cynique, coupée. Manifestement, Bruno Dumont pense que le public bêtasse ne mérite pas la subtilité, l'ambivalence, la légèreté, la complexité. Il lui faut du lourd, de l'insistant, du répétitif. Même sentiment d'Annie Goujard de Paris. Dumont aurait pu avoir l'honnêteté d'intituler son film « Léa dans tous ses états ». Mais France, parce que je vois que tu es un peu en train de t'affaisser, Jean-Marc. France a aussi ses défenseurs, comme Dominique Léger. Ceux qui démolissent France sont des myopes, qui n'ont pas conscience de la monstruosité du système que nous fait subir le capitalisme de divertissement. Dumont insiste là où ça fait mal. Pour Amaury Foucard de Lille, France est un chef-d'œuvre, une satire mal aimable, certes, mais la mise en scène de Dumont permet une réflexion puissante sur le rapport entre cinéma et réel. J'avoue, nous écrit Simon Dutin de Bordeaux, avoir beaucoup aimé France, formidable film sur le mensonge, et Luc d'Alfortville, sous son aspect mal peigné, mi-réussi, mi-raté, France de Dumont est passionnant. Sur le fond, oui, dit encore Quentin Pommard de Strasbourg, ce film est fait de laideur, de cynisme, de vulgarité, de ridicule. C'est ainsi qu'il tend à la réalité du monde, son miroir le plus insoutenablement réaliste et atrocement hilarant. Vous avez détesté France, tant mieux, c'est que le film est réussi. Rien à ajouter? Non, tu reprends un peu des couleurs.
Non, je trouve ça très, très beau et très fin ce qui a été dit à la fin du courrier. Absolument.
Voilà. Enfin, juste à propos d'un triomphe d'Emmanuel Coursol, j'ai reçu beaucoup de courriers partagés, je voudrais au moins citer le témoignage de Sylvie de Courcelles, qui est secrétaire générale de la Fondation Valentin Ribet. J'aurais aimé que vous citiez le magnifique travail de Sylvie Nordheim, qui dirige des ateliers de théâtre créatifs en prison. Durant une année, elle accompagne des hommes détenus à la prison de Fresnes et ces hommes se produisent sur la scène de l'Odéon, ce que je ne savais pas. Ce projet intitulé Fresnes en scène, de la prison à l'Odéon, qui est la fin du film, a pu se concrétiser 3 années de suite avec le soutien notamment de la Fondation Valentin Ribet. La Covid a interrompu Fresnes en scène, mais l'émotion ressentie lors des applaudissements et la salle debout à la fin des représentations est intacte. Voilà. Allez, on commence avec un film qui était à Cannes, mais hors compétition. C'est Stillwater, de l'acteur Tom McCarthy, à qui on doit, vous savez, Spotlight. Et là, c'est avec Matt Damon, Camille Cotin, Abigail Breslin. Et Matt Damon, c'est Bill Baker, un ouvrier sur un puits de pétrole qui vient de Stillwater, une ville de l'Oklahoma, et qui débarque à Marseille. Marseille, son vieux port, ses calanques, son stade de l'OM, pour essayer de sortir de la prison des Baumettes, sa fille Allison, c'est Abigail Breslin, condamnée à 9 années de détention pour le meurtre de sa colocataire, qu'elle jure bien sûr n'avoir pas commis. Évidemment, Bill ne parle pas un mot de français, ni de Marseillais. Il trouve notre système juridique très compliqué, mais il va pouvoir compter sur l'aide de Virginie, qui est une actrice de théâtre incarnée par Camille Cotin, et qui élève seule sa fille de 8 ans et trouve en lui le père qu'elle n'a pas. On ne va évidemment pas révéler le dénouement qui arrive après 2h20. C'est co-scénarisé par Thomas Bidguin et Noé Debré. Jean-Marc ?
Je trouve le film assez intéressant. Pour moi, sa grande réussite, c'est son rythme. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'extrêmement languissant dans le film, qui est un peu à l'inverse de ce qu'on connaissait de ce cinéaste, qui a plutôt jusque-là fait des films avec un rythme assez frénétique, très soutenu, une batterie scénaristique. Et là, on pouvait penser qu'avec ces deux cinéastes français qu'on a connus pour leur travail avec Jacques Audiard, ça serait aussi un film très scénarisé. Et ce qui est beau pour moi, c'est la manière dont le film desserre les taux narratifs pour devenir vraiment un film de portrait, un film de personnage. Il y a quelque chose, c'est comme, vraiment comme une, le film est au rythme d'une promenade, et on a l'impression, on ne sait pas si c'est Matt Damon qui se cale au rythme du film ou le film qui se cale au jeu de Matt Damon, un Matt Damon extrêmement alourdi, comme un gros beignet plein de gras, et le film a comme ça un effet un peu
il loucou. Appréciera un gros beignet.
Non mais il reste très beau Matt Damon.
Salut Matt,
il reste
salut.
Beau dans tous ses états, mais là effectivement il est vraiment très alourdi, et le film a cette espèce de faux rythme que je trouve assez beau.
Qui joue enfin je trouve ça un chouïa long si vous permettez, parce que 2h20...
Ah mais justement pour moi c'est la force du film, c'est-à-dire qu'il prend plus de temps qu'il n'en faudrait pour raconter cette histoire.
C'est un peu gras, tu vois, c'est un peu...
Et c'est ça qui est beau.
Voilà. C'est une longueur de beignet, tu vois.
Voilà, mais c'est cette espèce de lenteur du film que je trouve vraiment assez belle et qui permet de s'intéresser vraiment aux personnages, vraiment aux à-côtés. Et je trouve que, par exemple, le travail sur Marseille, c'est quand même un film américain. On pourrait se dire que ça va être soit un Marseille
clichés,
touristique, voilà.
Y a pas
soit
clichés.
Un Marseille hystérisé, genre BFM TV ou le film de Cédric Jiménez, enfin une sorte comme ça d'hystérisation de Marseille, et pas du tout. C'est vraiment le tableau d'une ville tout en contraste, et ce côté balade est vraiment assez attachant.
Charlotte.
Ben, je rejoins Jean-Marc sur évidemment Matt Damon qui en bourru, taiseux, homme blessé, va peu à peu s'ouvrir au monde. Mais moi je me demande sans cesse pendant le film qu'est-ce qui intéresse vraiment Tom McCarthy dans cette histoire, parce que on démarre quand même sur une piste policière qui est lointainement adaptée de l'affaire Amanda Knox, qui est quand même un fait divers qui avait défrayé la chronique. Et finalement en termes d'intrigue policière, on est vraiment au niveau zéro, quoi. C'est-à-dire que le film ne va pas du tout.
Je pense pas que c'est plutôt la rencontre avec Camille Cotin,
ben, c'est
avec
ça. Ce personnage qui est intéressante. Et donc on se dévie sur la rencontre avec Camille Cotin et cette histoire qui adviendra ou pas, on laisse au spectateur le loisir de le découvrir. Mais finalement, c'est le trajet de cet homme qui est intéressant, que sa fille soit coupable ou non, et comment il va trouver des preuves ou non. Ça, c'est complètement délaissé. Nous-mêmes, en tant que spectateurs, on s'en désintéresse. Et c'est là où, à mon sens, le film réussit pas totalement son pari, c'est que cette relation père-fille qui est très abîmée, qu'il va essayer de reconstruire, ben, finalement, s'efface complètement au détriment de la relation plus ou moins amicale, plus ou moins amoureuse avec Camille Cotin, qui là, pour le coup...
Avec une autre enfant, qui est une sorte
oui,
de transfert.
Oui, une autre enfant bah, qui transfère complètement, et qui là, je trouve, est très intéressante. Parce qu'il y a finalement une sorte de douceur dans cette balade où, effectivement, Marseille est filmée admirablement. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit un cinéaste américain qui filme aussi bien cette ville, finalement, avec aucun cliché. Et là, il y a, pour moi... quelque chose d'assez émouvant dans cette rencontre inattendue entre ces deux personnages qui auraient jamais dû se rencontrer. Néanmoins, sur 2h30, quand on est sans arrêt rappelé à cette intrigue policière où, dont on se fiche éperdument, ça me pose un petit problème quand même.
Michel.
Oui, alors moi je suis un peu étonné, étant donné la sélection américaine à Cannes a été de la vie presque unanime, très décevante par rapport à...
Par rapport à celle de Venise, par exemple.
Et par rapport à Venise et par rapport à ce qu'a été Cannes pour le cinéma américain où les plus grands venaient. Bon, j'ai été étonné que ce film soit hors compétition, parce qu'il était peut-être le meilleur film américain pour moi, qui était à Cannes, sans être...
Oui, parce que le Sean Penn était en compétition, par exemple.
Voilà. Mais sans être un grand film. Je suis d'accord avec Jean-Marc. Je trouve qu'effectivement, mais s'il avait duré 2 heures, en 2 heures, il pouvait avoir un rythme lent et on aurait pu sentir cette beauté, justement, de cette lenteur. Et je trouve que Matt Damon s'intègre très bien dans cette mise en scène, parce que c'est presque l'anti-acteur studio, Matt Damon. C'est l'anti-hystérie du jeu, c'est l'anti-on entre en force. C'est un acteur qui sous-joue. Il est très bon, et je suis d'accord aussi sur la façon dont Marseille est filmée. Mais Marseille a toujours été aimé par le cinéma américain. Il y a eu pas mal de films, en particulier le French Connection. Et je trouve que McCarthy, c'est pas Spotlight.
Enfin, on n'avait pas vu Marseille au cinéma américain depuis très longtemps.
Mais Spotlight était un meilleur film, à mon avis. Il était plus.
Bah, c'était pas le même sujet, hein, non plus. Hein.
Oui, mais c'était un meilleur film, à la fois sur la façon de traiter le sujet, sur la mise en scène. C'était évidemment le contraire de celui-là. Mais je pense que c'est un cinéaste intéressant qui est assez formé par l'Europe et qui, visiblement, a une tentative de cinéma d'auteur plus que certains de ses confrères.
Eva.
C'est un film, ce qui est étonnant, c'est que c'est un film qui laisse indifférent. À tout
au
moment.
Au moins, tu es clair.
Non, mais c'est vrai. Et on se demande pourquoi on n'est jamais un peu pris. C'est-à-dire que c'est comme, vous savez, quand on est à l'école, on écrit on met des promesses non tenues. C'est affreux quand il y avait ça dans la marche. Eh bien, c'est comme s'il y avait des...
Tu avais ça, toi ?
Ça a dû m'arriver, je le confesse. Eh bien, il y a ça. Effectivement, comme le disait Charlotte, l'enquête policière est réduite à néant. Les scènes de parloir, quand il va voir sa fille, qui sont aussi un classique du cinéma, ne sont pas très réussies. L'actrice qui joue la fille, qui était celle, qui, la gamine de Little Miss Sunshine, n'est pas très bonne. La romance... Et pardon, mais là on est dans un archétype, l'artiste, la théâtreuse bohème face à l'américain ancien alcoolo qui ne boit que de l'eau et qui récite de bénédicité à chaque repas, on est dans un archétype qui n'évolue jamais. La seule jolie histoire, c'est effectivement ce transfert sur la petite fille. Puis après, enfin, je vais pas entrer, il y a tas de lourdeurs de scénario, comment Camille Cotin se fâche avec lui pour un détail qui n'était pas si important, bref. Donc la seule chose qui demeure, c'est la présence massive de Matt Damon. Je suis pas tout à fait d'accord quand tu disais Jean-Marc, c'est un beau gosse. C'est pas un beau gosse, c'est un type lambda.
Non, il disait c'était un beignet.
Non, mais au départ,
il y a un beau beignet.
On a compris que c'est un type assez banal dont tout le cinéma nous a prouvé qu'il est beaucoup plus complexe qu'il n'en a l'air. Ce qu'il y a de mieux dans le film, c'est sa présence massive et c'est la pression de défaite.
Stillwater de Tom McCarthy. À Cannes encore, mais en sélection officielle cette fois, il y avait Tout s'est bien passé, un film de François Ozon avec André Dusselier, Sophie Marceau, Géraldine Pellas, Charlotte Rampling, Grégory Gadebois. Et pour un rôle discret, mais évidemment capital, pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous comprendrez, la très fassbinderienne Anna Chigoula, choisie par le très fassbinderien François Ozon. Un film adapté du récit autobiographique d'Emmanuel Bernheim, qui est disparu en 2017, et qui avait travaillé avec Ozon à l'écriture de 4 de ses films. Le sujet, maintenant, vous le connaissez tous, hein, un homme de 85 ans, c'est André Dusselier, est victime d'un AVC, et c'est un collectionneur d'art, à la fois odieux et délicieux, qui se réveille à l'hôpital, très diminué, et à une de ses deux filles, Emmanuelle, c'est Sophie Marceau, on comprend que c'est vraiment Emmanuelle Bernheim, l'autre étant jouée par Géraldine Pellas, il demande de l'aider à en finir et de trouver en Suisse, puisque la France l'interdit, l'adresse où se pratique le suicide assisté. Alors sur le papier, c'est sinistre. En vérité, le film, en tout cas selon moi, est d'abord une comédie sur la famille, un des sujets chers à François Ozon, confronté évidemment ici à des situations ultimes, et même vers la fin, je trouve, à un polar, avec flic, avec délateur, et où il s'agit de savoir si les deux filles vont réussir la mission risquée que leur père, par ailleurs homosexuel et séparé de sa femme, c'est Charlotte Rampling, leur a confié. Michel.
Moi, d'abord, Ozon m'épate par sa versatilité, son goût de la découverte, de changer, de tourner beaucoup un film par an, et à chaque fois, pour
23 films en 25 ans.
Voilà, presque à chaque fois, je trouve, c'est réussi ici. Ce qui est intéressant, c'est que le précédent film, c'était sur la jeunesse,
été 85,
et la mort, bien sûr. Et on retrouve la mort ici, mais du côté de la vieillesse. Et je trouve le film, d'abord, il y a beaucoup d'humour. Je dis pas que c'est une comédie, bien sûr, mais il y a des choses très drôles qui viennent du personnage de André Dusselier,
qui est à peu près méconnaissable. Hein,
En même temps, il évolue. Mieux il va, plus il a envie de mourir, ce qui est un peu une sorte de paradoxe. Sophie Marceau, que j'aime beaucoup, j'ai toujours beaucoup aimé, a un de ses meilleurs rôles, où elle est à la fois vulnérable et volontaire. Je trouve que, en même temps, c'est jamais dossier de l'écran, c'est jamais une démonstration.
Les dossiers de l'écran à chaque masque et la plume.
Ben c'est vrai.
Vous allez me faire vieillir l'émission, attention mes enfants.
C'est pas l'euthanasie traitée comme ça, mais en même temps, c'est très documenté, c'est vraiment, on voit vraiment toutes les expériences des différents hôpitaux dans lesquels il va. Donc je trouve le film vraiment une réussite. Je trouve de la part de la presse, une certaine presse, encore une fois, très méchante. chante avec Ozon.
À Cannes. À Cannes, c'était une réception mitigée, mais la presse cette semaine était plutôt bonne. Hein.
Oui, oui, bien sûr, elle est très majoritairement bonne, mais il y a une sorte d'hostilité à l'égard d'Ozon de certains qui m'étonne encore et je n'arrive pas à comprendre.
Il y a un grand et très intéressant entretien avec François Ozon dans le numéro positif de ce mois de septembre. Eva.
J'avais lu le livre d'Emmanuel Bernheim, je connaissais bien Emmanuel Bernheim et j'ai vu ce film deux fois. Eh bien, plus le temps passe et plus je me dis, il est mieux que bien, mieux que je ne le pensais à la première vision. Sous son apparence de cinéma classique, il est très gonflé. Parce que on nous dit toujours pour la fin de vie, les gens qui acceptent qu'une personne recourt au suicide assisté, c'est un acte d'amour. Dans le film Amour de Haneke, c'est par amour qu'il tue sa femme. Là, on vous dit pas ça. Ce père, il était odieux, séduisant, formidable.
Mais très séduisant aussi. Hein.
Très séduisant aussi. Justement, il y a la séduction qu'il exerce. Mais à un moment donné, il y a même une manière de se moquer de la psychanalyse. Quand la sœur dit à Sophie Marceau, bah, toi qui avais toujours envie de le tuer, voilà, t'as l'occasion. C'est-à-dire que ça va plus loin de « c'est par amour qu'on tue ». Il dit « c'est pour la dignité, au fond, que la fille tue ». Accepte de la, pas tue, mais accepte de l'accompagner jusqu'à la mort. À un moment donné, il y a une amie qui dit à Sophie Marceau, Emmanuel, dit, il était horrible comme père, j'aurais adoré l'avoir comme ami. Et cette personne lui dit, alors si c'est un ami, aide-le. C'est-à-dire que la question de la dignité, la question du respect de la parole, la question du pacte est plus importante que ce que l'on a admis, c'est par amour qu'on tue. Et je trouve cette idée qui sort en filigrane. Je trouve que beaucoup de choses passent en filigrane, de même que par exemple...
Même la présence du personnage de Grégory Gadebois,
mais bien sûr,
qui joue l'amant.
Qui joue l'amant.
Un peu intéressé, il faut dire la vérité.
Oui, mais ce qui est formidable, tu parlais d'un film de famille, c'est une tribu à part. On se dit qu'ils sont arrivés au-delà de la psychanalyse, au-delà de quand on a réglé ses comptes.
La mère Charlotte Rampling, qui semble sortir directement de Dune, on voit vraiment qu'elle est, et de Benedetta, on lui assigne quand même des rôles terriblement difficiles.
Oui, hein.
Le personnage de la mère n'existe pas dans le livre.
Non, mais elle est
bien que cette femme soit desséchée, etc., parce qu'elle a épousé un homme qui aimait les garçons.
C'est pour ça que je dis qu'elle est tellement desséchée, on croit qu'elle sort de Dune.
De famille, comme tu dis là aussi, c'est une idée qui est dérangeante, parce que cette famille, au fond, elle est arrivée à un stade où on peut avoir la liberté de dire au père qui est à l'hôpital, tu as fait le testament, tu voudrais être enterré où ? Enfin, voilà. Donc il y a toutes ces choses-là qui font que ce film est beaucoup plus intéressant encore que son apparence.
Jean-Marc.
Je vais un peu faire baisser la température d'enthousiasme sur le film.
C'est drôle parce que je m'en doutais.
Et pourtant, contrairement à ce que disait Michel tout à l'heure, moi je n'ai pas une hostilité d'ensemble sur le cinéma de François Ozon. J'aimais beaucoup, par exemple, En été 85 et à peu près un film sur deux de François Ozon, je l'aime beaucoup, et d'autres, je les aime moins. Celui-là, je l'aime moins, tout en trouvant qu'il y a une sorte de brio d'exécution, un vrai savoir-faire chez lui, qui fait que le film est assez réussi dans ce qu'il vise. Mais ce qu'il vise dans ce film-là ne m'intéresse pas beaucoup. J'ai le sentiment que la mise en scène se réduit à un exercice de modération. C'est-à-dire que tout doit être pondéré, lissé, contrebalancé. Dès qu'on effleure quelque chose de très violent, de tragique, aussitôt il y a une petite scène de comédie. Toutes les scènes sont un peu filmées de la même façon, c'est très alerte, très vif, des scènes très très courtes, comme si le film voulait tout étalonner, parce qu'au fond ce que le film vit, c'est une sorte de confort du spectateur qui fait passer le film comme une expérience plaisante. Et j'ai le sentiment que sur ce sujet-là, à un moment donné, il y a un défaut de tragique et de métaphysique. C'est-à-dire qu'en se concentrant sur le quotidien, sur toutes les procédures nécessaires, de voir Sophie Marceau palier par palier faire tout ce qui est nécessaire, à un moment donné, j'ai l'impression que la dimension métaphysique sur le désir de mort, la lassitude de la vie, échappe, ou est effleurée, ou le film s'en protège.
C'est ça qui est intéressant, puisque c'est le point de vue de la fille. On n'est pas dans le point de vue d'André Dussolier qui joue le père,
c'est le
point
de vue de la fille.
Bien sûr.
Mais c'est par le trivial qui nous fait sentir l'approche de la mort.
Et en même temps, même le personnage de la fille doit se poser,
a
accès à cette question. C'est pas possible que ce questionnement-là n'effleure pas même le personnage de la fille. Et je pense que la manière dont André Dussolier joue son personnage entièrement du côté de la comédie, qui fait presque passer ce désir de mort pour un caprice un peu infantile, je pense que pour moi c'est aussi un problème, et ça minore.
Ah non, on sent vraiment cette volonté obstinée d'aller jusqu'au bout là. Non, c'est
mais
pas un caprice.
Il le joue de manière extrêmement comique.
Parce qu'il est défiguré.
Et je pense que c'est une négociation avec la gravité du sujet.
Mais quand, quand la cousine qui a survécu à la déportation dit « après ce qu'on a vécu, tu ne peux pas te tuer », On peut pas dire que les Charlotte. Sujets graves n'y sont pas.
Bah, Charlotte.
Il se trouve qu'à Cannes, on a vu beaucoup de films qui traitaient de morts annoncées sur le sujet. On en a vu énormément. Et toujours traités avec plus ou moins de pathos. Et là, pour le coup, moi, ça m'a fait beaucoup de bien, justement, cette distance.
Il n'y a pas plus de pathos, d'ailleurs, que dans le livre de Bernheim, qui était un
non,
livre
mais là, il
n'y
en
bref.
A vraiment aucun.
Oui, mais dans le livre de Bernheim, relisez-le. C'est presque sec, d'ailleurs, comme souvent les livres de Bernheim. Il n'y avait aucun pathos.
Et ce qui n'empêche pas, enfin, en tout cas, pour ma part, l'émotion finale, là où je trouve qu'il réussit un pari assez gonflé, c'est effectivement d'insuffler beaucoup de vie et beaucoup d'humour dans une situation qui, sur le papier, en manque cruellement. C'est lié à deux choses, on l'a tous assez dit, le personnage d'André Dussollier, effectivement, une espèce de monstre d'égoïsme, à la fois charismatique, menteur, séducteur, à qui on peut rien refuser. Et puis, ces péripéties administratives que doivent aborder les filles, qui sont complètement cocasses, parfois kafkaïennes.
Ah oui, à la fin,
c'est bureaucratique. Non, mais c'est dingue.
Et
quand on disait que ça emprunte les codes du polar, c'est là où je trouve ça génial, parce que la question se pose de comment on transporte un vieux monsieur en fauteuil roulant jusqu'en Suisse sans que personne s'en aperçoive. Est-ce qu'il faut se créer un alibi pour prouver qu'on n'a pas aidé cette personne? Et finalement, les codes du polar, à savoir comment on transporte et on cache un corps, alors que ce corps n'est même pas encore mort, sont adaptés ici. Après, l'interprétation, je trouve tous les comédiens vraiment merveilleux.
Personne ne parle d'Anna Chigoula.
Anna Chigoula, merveilleuse. Moi, ma petite limite ou réserve, et c'est pas sur le même terrain que Jean-Marc, c'est les flashbacks. Il y a des flashbacks sur l'enfance dont j'avais vraiment pas besoin pour comprendre cette relation filiale un peu abîmée. Je trouve ça dommage.
C'est donc Tout s'est bien passé, un film de François Ozon. Des réactions, oui, sur ce film. Le micro vient vers vous. Bonsoir.
Oui, je voulais dire bravo et merci à François Ozon d'avoir traité ce sujet, parce que son film est effectivement très réussi. Je suis étonné que personne ne fasse référence au film de Stéphane Brisset, qui traitait exactement
absolument.
Du même sujet.
Oui, Quelques heures de printemps.
Quelques heures de printemps.
Et avec la même économie de...
Si j'ose dire, il y avait Vincent Lindeau qui emmenait sa mère en Suisse, qui était Hélène Vincent, me semble-t-il.
Absolument.
Et je trouve que, pour les gens qui ont peur d'aller voir ce film par rapport au sujet, je trouve que Dussollier est absolument irrésistible de drôlerie et sa farouche volonté de vouloir en finir. Et ça, c'est très, très bien traité. J'ai beaucoup ri, moi. C'était très drôle. Dussollier est à tomber par terre de drôlerie.
Merci pour votre témoignage, si j'ose dire. Et vous avez raison, n'ayez pas peur. Il faut y aller. D'autres réactions sur ce film? Non. La proie du nombre, là on peut avoir peur en revanche, qui était présenté lui au Festival américain de Deauville, un film d'horreur en effet, signé David Bruckner avec Rebecca Hall, très loin de Vicky Cristina Barcelona, Sarah Goldberg, Stacy Martin et Beth, c'est Rebecca donc Hall, dont le mari architecte vient de mourir, qui se retrouve seul dans une belle maison, très belle maison, qu'il avait construite pour eux au bord d'un lac. La nuit, elle est hantée par des cauchemars et une question... Pourquoi, alors que le couple... Est-ce qu'il faut le dire, d'ailleurs? Est-ce qu'il faut dire la manière dont il est mort? On peut le dire ou pas?
Ah bah oui, c'est dès le début.
Oui, c'est pour ça, mais...
Oui, c'est la première scène.
Bon. Alors, que le couple filait le parfait amour, pourquoi s'est-il tiré une balle dans la tête? Et qu'est-ce qu'elle va découvrir en fouillant dans ses affaires? C'est du gothique à l'ancienne. Je suis pas un spécialiste comme Jean-Marc du film d'horreur qui va nous dire. Je dirais du gothique à l'ancienne, mais post-MeToo. Jean-Marc.
Ah, mais tu as tout dit. Oui, je suis totalement d'accord. Ça fait penser un peu à un genre hollywoodien des années 40 qui est effectivement le drame gothique où tout le temps, dans une maison, une femme est menacée par son mari. On pense à Antis, de Cukor, à Rebecca, à Hitchcock. Il y en a vraiment des dizaines. Sauf que là, le mari est mort. Enfin, donc, effectivement, Ça change tout, mais ce qui est beau dans le film, c'est qu'il ménage à la fois deux pistes, une piste du côté du surnaturel et une autre piste qui évacuerait le surnaturel au profit de quelque chose de très rationnel, qui serait tout à coup le décilement d'une femme sur la toxicité de ce qu'a accompli son mari. Et ces deux, il ne cède jamais sur une piste explicative ou sur une autre, et jusqu'au bout, avec un sens de l'ouverture et de la suspension qui est assez impressionnant, il ménage ces deux explications. Et ça, c'est vraiment très beau. Je trouve que le film est vraiment remarquablement mis en scène. Il imprime vraiment des images mentales très fortes. Ces jeunes filles en série qui se jettent dans le vide. Le film est très effrayant, ce qui est quand même un critère de réussite pour un film d'horreur. Et Rebecca Hall, qui est une actrice qui a quelques rôles très marquants. Tu citais le Woody Allen, on l'a découvert il y a 13 ans. On l'a un peu perdu, elle a fait des choix qui n'étaient pas excellents. Et là, je la trouve vraiment géniale, passionnante à regarder tout le temps. Et vraiment, j'étais très agréablement surpris par le film dont j'attendais pas grand-chose. Je le trouve vraiment très beau.
Michel,
oui, c'est une
est-ce que tu as eu peur, Michel ?
J'ai eu assez peur. Ah. Je trouve que le film est même gâché par les dernières 15 minutes qui sont l'histoire de Capharnaüm.
Qu'on ne racontera pas.
Voilà, qui est surjoué, surmise en scène. Mais en même temps, on comprend l'intérêt des cinéphiles dans les années 50-60 pour ce type de cinéma, de thriller fantastique. Évidemment, des grands maîtres comme Polanski, comme Hitchcock, comme Kubrick, qui ont traité le genre. Parce que finalement, la mise en scène devient très très importante. Parce que c'est par la et on voit dans ce film le rôle des éclairages, le rôle du montage, le rôle des décors, le rôle de la lumière, etc. C'est-à-dire qu'il y a un vrai travail formel, parce qu'on reprend des vieux thèmes, et donc il s'agit de se distinguer par la mise en scène. Et moi, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. Alors j'attends, Rebecca Hall vient de tourner son premier film, qui va bientôt passer.
Comme réalisatrice ?
Comme réalisatrice, mais je crois que c'est sur Netflix, hélas, encore une fois. Elle a trouvé de l'argent chez Netflix.
Voilà, bah oui,
mais en tout cas, le film m'a vraiment saisi en retrouvant ce côté gothique dont parlait Jean-Marc, c'est des années 50, 40.
Charlotte.
Bon, ça fout vraiment les chocottes, hein. Voilà, on va pas se mentir. Moi, j'ai fait des bonds de 30 cm, donc en ça, ça remplit vraiment sa
d'autant
mission.
Il y a de plus en plus de faux films d'horreur, je trouve.
Oui, oui, mais c'est aussi par la suggestion,
absolument,
par le son, on n'est pas du tout avec des monstres sanguinolents. Non, voilà, ça fait peur. En ça, c'est réussi. Après, ça coche toutes les cases auxquelles on attend. Alors là, c'est la nuit, dans la forêt, il pleut. Enfin, voilà, c'est pas évidemment pas sous le soleil que tout ça se passe. Moi, j'étais assez saisie par des idées et de mise en scène et de décor, puisque tout se passe dans cette maison, et par un jeu extrêmement subtil de découpe des meubles, de ce qu'on voit ou ce qu'on pressent, encore une fois, dans la pénombre, puisque le film est très très sombre. Tout d'un coup, des silhouettes apparaissent, mais uniquement par l'ombre des meubles, en fait, du mobilier, de l'architecture. Et en ça, c'est vraiment assez flippant et très réussi. Mais alors, je rejoins Michel. Moi, je veux bien qu'on me balade n'importe où, mais enfin, il faut quand même arriver quelque part. Et alors, le dernier quart d'heure, là, je n'achetais plus du tout cette histoire, donc je ne vais pas révéler quelle piste il suit, puisque Jean-Marc disait qu'il y en avait deux, effectivement. Mais alors moi, le dernier quart d'heure, là, pour le coup, il m'a perdu et je trouve ça vraiment dommage.
Eva.
Écoutez, en vous écoutant, j'ai l'impression d'être superwoman parce que j'ai pas eu peur du tout.
Non,
ce qu'il y a de, je trouve, formidable, c'est les moments où on sursaute. D'habitude, dans film, quand on sursaute...
Sursauté.
Non, mais j'ai sursauté.
Laisse-moi finir.
J'ai sursauté. Ce qu'il y a de génial, c'est d'habitude, quand tu vas sursauter, tu as une petite musique qui te prévient. Là, rien ne te prévient. Tout d'un coup, tu sautes. Mais ça ne dépasse pas les moments.
Ça t'a excité, mais ça ne t'a pas apeuré.
Non. J'ai sauté deux, trois fois sur ma chaise.
Oui.
Mais Rebecca Hall avait beaucoup plus peur que moi. Et les raisons pour lesquelles elle avait peur, je n'avais pas peur. Donc, si tu veux, on te dit non, tu vas pas me refaire le coup de l'empreinte sur le sol, la marque sur le sol, la lumière qui s'éteint, la radio qui démarre toute seule, etc. Ça, c'est des vieux trucs, d'accord. Mais après, le film qui m'intéresse le plus, moi, paradoxalement, c'est le film sur le deuil. C'est comment c'est Rebecca Hall avec ce qu'elle a, comment elle voit plus le réel de la même manière. Elle a de la peine, elle ressent la solitude, elle a l'impression de la fin de son existence, elle est en colère parce que le suicide crée la colère. Mais tout le reste, toutes les pistes qui s'ouvrent et on ne sait plus où ça mène, est-ce que le mari était ceci, est-ce que cela, ça fait une sorte de galimatia et qui fait que, passé cela, le film se perd.
La proie du nombre, le film qui n'a pas fait peur à Eva Béton.
Exactement.
Il est signé David Bruckner. La troisième guerre, premier film d'un Italien, d'un jeune Italien, Giovanni Alloy, avec Anthony Bajon, très bon jeune comédien, c'était lui dans La prière de Cédric Kahn. Karim Leclou, alors lui, il est passé directement de la BAC Nord de Marseille à l'Armée de Terre, au moins il y a une logique. Et Leïla Bekti, est-ce qu'il y a un film sans Leïla Bekti actuellement ? Non. Qu'on retrouvera en effet la semaine prochaine dans Les très beaux intranquilles de Joachim Lafosse. Un film qui était présenté à la Mostra, mais en 2020, donc il a mis du temps pour sortir, et qui arrive, c'est troublant, d'ailleurs, sur nos écrans en France, au moment où se déroule le procès des attentats du 13 novembre, après lesquels, vous le savez, a été renforcée l'opération Sentinelle, visant à prévenir la menace terroriste. Et c'est justement une patrouille sentinelle de trois soldats que suit ce jeune réalisateur italien dans les rues et les métros parisiens. Léo, c'est donc Anthony Bajon, Hicham, Karim Leclou et Yasmine, c'est Leïla Bekti qui est leur supérieure et qui cache non sans mal, il faut dire, sa grossesse. Alors il marche arme au poing évidemment, il ne trouve rien qui puisse attenter à la sécurité nationale, mais ils sont sommés, et c'est ça pour moi le plus incroyable, parce que c'est le plus vrai, évidemment le plus juste de ce film, ils sont sommés de ne jamais intervenir, même lorsqu'ils sont témoins d'une agression ou d'un vol à l'arraché. C'est à peine, ça c'est la fin du film, si lorsqu'ils traversent une manif contre la réforme des retraites, on les remarque alors qu'ils sont en uniforme, etc. Bref, ce sont des militaires confrontés à une guerre invisible, la troisième guerre, et c'est un peu, en tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu, le désert des Tartares, mais en plein Paris. Eva.
C'est exactement ça. D'abord, la troisième guerre, c'est un titre affirmatif, comme on dit, la deuxième guerre mondiale, c'est la troisième guerre. C'est effectivement, ils pensaient probablement que ce serait la Légion saute sur Colvézi et c'est plutôt le désert des Tartares qu'ils vivent. Ce que je trouve formidable, c'est que c'est un film d'atmosphère. Il nous rend, en l'exagérant, je l'espère, l'atmosphère toxique qu'il a pu y avoir à Paris.
Je pense pas qu'il exagère. Oui, peut-être l'atmosphère, mais pas le fait qu'il ne puisse pas intervenir.
Non,
c'est
ça,
une réalité.
C'est pas là-dedans. Je dis, j'espère que l'atmosphère dans laquelle nous vivons n'est pas aussi toxique que celle qu'on voit là. J'espère que nous sommes pas à ce degré d'anxiété. Il montre la différence entre le réel. Ils traversent une manifestation. Ils ne savent même pas. Alors, les gens ne manifestent pas contre le terrorisme. Ils manifestent pour les retraites. Eux, à la limite, ils ne savent même pas. Ils ne comprennent même pas de quoi il s'agit. Donc, face à une manifestation réelle, eux sont sur un danger invisible. Et tout est là entre ce réel qu'ils ne voient pas. Ils ne voient que le petit bout de la lorgnette. Ils cherchent le sac dangereux, le type qui a l'air bizarre.
Est-ce qu'on va faire sauter la valise dans le hall de la gare?
Ils sont aveugles. C'est un film d'aveugles. Ils ne peuvent pas avoir de vue d'ensemble. Et je trouve que c'est vraiment très bien fait. On voit vraiment cette sorte de dichotomie entre la vie réelle, des gens par exemple, des commerçants qui mettent des panneaux pour protéger leurs vitres en vue de la manifestation, et eux qui cherchent un danger qu'ils ne voient pas. Et ils sont à la fois invisibles, ce qui est terrifiant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous avons admis le fait que des hommes en armes dans Paris, on ne les voit même pas.
Mais les sentinelles
plus.
Continuent à rôder dans Paris.
Oui, mais
on
ne les regarde plus.
En voiture.
On ne les respecte pas. Quand ils disent « je suis un soldat, je représente la France », quand ils racontent ça dans une boîte de nuit, ça fait rire tout le monde. Donc il y a énormément d'informations qui passent à travers des petites choses. Et c'est pour ça que je dis que c'est un film d'atmosphère, parce que ça donne un état de notre esprit.
Michel.
Oui, il a réussi, ce débutant, à faire un film très difficile qui avait été raté dans l'adaptation justement du désert des Tartares. C'est-à-dire à faire un film sur un non-événement. À faire un film sur des gens qui attendent, des gens qui circulent dans Paris, qui n'ont rien à faire.
C'est une sorte ils ont à faire, ils ont à prévenir.
Oui, c'est presque un théâtre de l'absurde.
L'attentat.
C'est presque un théâtre de l'absurde. C'est presque une version beckettienne, presque, cette ronde de jour, avec évidemment les grandes manifestations très bien filmées. Les séquences de violence de rue sont très bien filmées. Et avec surtout ces trois personnages très bien joués. Anthony Bajon, qu'on a découvert dans La Prière, qui est absolument formidable, la Bekti, etc. Et puis ce personnage aussi, joué par Karim Leclou, une sorte de personnage absolument excentrique, très étrange. Moi, je trouve que c'est une vraie réussite, et curieusement d'ailleurs fait par un Italien qui a tourné en France, et je pense qu'il faut vraiment le recommander.
Charlotte.
Oui, alors, moi, je trouve que le réalisateur peut vraiment remercier ses acteurs, parce que pour moi, le film tient dans sa force d'incarnation. C'est-à-dire que ces deux comédiens que vous avez cités sont absolument remarquables, et on les voit naviguer entre vigilance et ennui, entre l'attente qu'il se passe quelque chose et la frustration de ne pas pouvoir intervenir, jusqu'à glisser sur un terrain paranoïaque. Mais finalement, au bout d'un moment, moi, en tant que spectatrice, j'étais un peu comme eux. C'est-à-dire, j'attendais qu'il se passe quelque chose, et à l'arrivée, ce qu'il advient est assez prévisible, ou en tout cas, pour le coup, on prend une longueur d'avance sur les personnages. Donc il y a quelques trous d'air dans le scénario que je regrette.
Parce que même la scène où il revient, le personnage d'Anthony Bajon revient dans sa maison, dans sa famille, où il y a beaucoup de problèmes, il ne l'utilise pas.
Enfin, il n'en fait rien. Mais en revanche, je rejoins, Eva, sur le climat, climat anxiogène, la paranoïa qui les gagne petit à petit, puisqu'ils regardent, comme ils disent, ils cherchent un truc chelou. on ne sait pas bien quoi, mais un truc chelou. Et en ça, le film est très fort, extrêmement prometteur pour un premier film. Mais sur le scénario, je le trouve quand même
c'est
un peu léger.
C'est le film qui est intéressant. La vie des casernes, par exemple, est assez conventionnelle.
Oui, mais sur le même sujet, il y avait ce documentaire danois, par exemple, Armadillo, il y a une dizaine d'années, que je trouvais extrêmement fort. Alors, c'était un documentaire, mais on suivait vraiment des militaires danois qui s'engageaient et qui arrivaient en Afghanistan et qui attendaient. Et c'était la vie aussi quotidienne, dans l'attente qu'il se passe quelque chose.
Jean-Marc.
Oui, moi je trouve le film vraiment réussi, pas que grâce aux comédiens, je trouve que c'est aussi un film de metteur en scène.
Je suis d'accord avec toi,
notamment il y a quand même une scène de manifestation où
c'est
on a l'impression qu'il y a 12 figurants, et il réussit vraiment à donner une impression de tumulte, d'agitation, de bordel absolu, alors que juste avec de la fumée et une bande sonore, et je trouve que c'est vraiment un grand moment de cinéma. Donc je trouve qu'on sent vraiment une personnalité de cinéaste qui s'éveille dans ce film. Moi, je trouve que la scène où le personnage principal retourne chez ses parents, effectivement, c'est juste une scène et en même temps, elle fonctionne complètement comme scène causale. Oui, mais ça suffit de dire que lui-même est en lutte avec l'alcoolisme, qu'il se bat contre des démons transmis par sa famille et qui a une sorte de destin social très très fort auquel il se débat pour échapper et ça se passe pas bien. Donc moi je trouve que cette scène suffit en fait à camper complètement l'itinéraire tragique d'un personnage. Et comme disait Michel, je trouve que ce qui est vraiment très réussi dans le film, c'est les scènes de patrouille où on voit l'éducation paranoïaque d'un regard. On leur apprend à suspecter tout. Quelqu'un qui marche avec ses mains dans les poches, forcément ça se traduit par qu'est-ce qu'il cache dans ses poches. Et on voit comment cette éducation paranoïaque du regard, ça aboutit à une sorte de détraquement du cerveau. Et je trouve que le film est très très anxiogène. Enfin, c'est vraiment un film qui m'a fait assez forte impression. Vraiment, et c'est un des films les plus angoissants
qu'on puisse voir en ce moment. Beaucoup plus effrayant que La
Proie du Nombre. À égalité, je dirais.
Paranoïa et en même temps ignorance, parce qu'ils doivent ignorer ce qui se passe sous leurs yeux. Quand ils se font agresser dans un métro, parce qu'ils n'ont pas bougé, ils restent imperturbables, ça fait partie aussi de la psychologie de ces soldats. La troisième guerre, c'est donc Giovanni Aloy, mais ça se passe à Paris. La voix d'Aïda, film de la réalisatrice bosniaque née à Sarajevo, Jasmila Zbanić, qui revient sur la tragédie de Srebrenica en juillet 95, quand la ville fut assiégée par les forces serbes, commandées par Ratko Mladic, alias le boucher des Balkans, et que 8000 Bosniaques furent massacrés. Alors le film se déroule juste avant ce massacre, et il suit, caméra à l'épaule, comme dans L'urgence absolue, une femme, Aïda, qui est jouée par Jasna Duricic, je ne sais pas si je le prononce bien, qui est prof d'anglais et interprète pour les casques bleus, ce qui la met, en tout cas dans le camp de l'ONU assailli par la population, à l'abri des Serbes, mais voilà, elle seule est à l'abri. Or, Aïda a un mari et deux grands-fils qui ne peuvent pas se prévaloir de son badge, de son laissez-passer, et elle va tout faire pour les sauver, j'en dis pas plus. Le visage des Serbes, évidemment, est terrifiant, à un moment donné, dans une scène très forte, mais je dois avouer que celui des casques bleus n'est pas très beau non plus. Il y a un grand entretien passionnant, d'ailleurs, avec la réalisatrice Jasmina Zbanić dans le numéro de Positif.
Avec Mike Lee, entretien.
Mike Lee, qui a vu le film trois fois, dit-il, et il a raison, parce que on utilise souvent l'expression « le cinéma art du XXe siècle » ou du XXIe. Pourquoi ? Parce que c'est évidemment un art qui est né au XXe siècle, mais c'est aussi un art qui a reflété le XXe siècle. Ce qui est passionnant dans le cinéma, il a remplacé la peinture d'histoire. C'est-à-dire que si on regarde l'histoire du cinéma, on voit la guerre du Pacifique, on voit la guerre de 14, on voit l'affaire Dreyfus, on voit tous les problèmes du XXe siècle et du XXIe qui sont transcrits par le cinéma. Et je vois pas pourquoi le cinéma ne pourrait pas traiter comme elle le fait le problème de Srebrenica et le génocide
qui reproche à cette réalisatrice de l'avoir traité.
Par exemple, dans Le Monde, il y avait un article qui disait « ce film manque de nuances ». Mais il s'agit tout de même d'un génocide. Alors comment on peut traiter la génocide avec nuance? Ça me fait penser à Billy Wilder, quand il est sorti du journal d'Anne Frank, il voulait se moquer des gens qui disent toujours « il faut des nuances, il faut tout de même le point de vue d'Hitler, le point de vue de Mladic, c'est un film trop simpliste, voilà, il n'y a pas les bons et les méchants ». Billy Wilder, en sortant du journal d'Anne Frank, il avait dit « j'aimerais avoir le point de vue de l'adversaire voilà. ». Et je trouve que c'est terrible tout de même de démolir un film qui est tout à fait passionnant, qui évite le larmoyant, qui est très sec, qui est magistralement
réalisée. Jasna Duricic.
C'est à la fois une histoire intime qui intéresse le spectateur et en même temps un regard vraiment sur ce génocide, sur cette extraordinaire extermination programmée par les Serbes. Donc je trouve le film fort, très fort. C'est pas un chef-d'œuvre, je dis pas que c'est un des grands films de l'année, mais c'est un film qu'il faut aller voir malgré cet article dommageable
que je n'ai pas lu. Eva.
Oui, c'est un film qu'on peut aller voir, c'est même mieux parce que les gens pourraient avoir peur du sujet. C'est un film accessible et il n'y a rien de péjoratif quand je dis ça, parce qu'elle va prendre une convention narrative qui est de suivre un personnage, Aïda et sa famille. Et c'est un film réussi, c'est important parce qu'il est moralement réussi. Il y avait une faute possible à chaque scène quasiment et elle évite ses fausses. Et elle arrive à faire comprendre ce qu'a pu être la lâcheté de l'ONU, l'abandon du reste du monde, ce qu'ont vécu ces gens.
L'attitude des casques bleus dans les films est quelque chose d'incroyable. D'effrayant.
Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'elle prend un personnage ambigu. Elle est traductrice, c'est-à-dire qu'elle est un peu protégée par rapport au reste de la population.
Elle
mais pas ses enfants, elle mais pas ses copains, ses voisins qui sont dehors. Elle doit transmettre des paroles que disent les gens de l'ONU, donc même quand elle sait qu'elles sont mensongères. Donc il y a tout un tas de jeux qui se jouent autour de ce personnage et elle arrive à faire comprendre ce que c'est que ce qui a pu être vécu là. Avec beaucoup de pudeur, néanmoins, elle sait ce qu'elle doit filmer et ce qu'elle ne doit pas filmer. Par exemple, elle ne montre pas un massacre. Donc, elle est sur une juste ligne où elle arrive à faire parfaitement comprendre, tout en tenant sa ligne morale.
Charlotte.
Ah oui, moi je trouve le film extrêmement puissant. On en sort assez terrassé, c'est-à-dire qu'au-delà du l'ignominie et du tragique absolu du sujet. Moi, je trouve la mise en scène du film vraiment incroyable puisqu'elle privilégie beaucoup les gros plans, les regards, les silences. À ce titre-là, il y a un échange de regards entre cette Aïda et un chauffeur de bus qui fait des allers-retours où on leur dit pas vraiment où ils vont, mais en fait, il revient chercher d'autres gens et on sait très bien ce qui se passe. Et cet échange de regards-là, moi, m'a absolument foudroyée. Et effectivement, elle fait une fiction, elle fait pas un documentaire. Donc, elle nous raconte tout ça à travers le trajet de cette famille et un vécu intime. Je trouve le film vraiment très, très fort.
Jean-Marc.
Moi, pas trop. En même temps, je suis un peu impressionné par... Le sujet est très impressionnant et on est malgré tout captivé par ce que le film raconte. À mes yeux, le film souffre de la comparaison avec le film de Kanchalovski qu'on a vu il y a quelques semaines, où on voyait aussi un personnage féminin balloté dans la violence de l'histoire et qui cherchait
magnifique.
À protéger sa famille, qui cherchait sa fille, à protéger ses fils. Et je trouvais que le film de Kanchalovski, il y avait vraiment une puissance dans l'entrelac entre l'intime et le collectif, une puissance dans la stylisation de la mise en scène que j'ai du mal à trouver ici. J'ai le sentiment qu'à chaque fois qu'on se... Bien sûr, non, évidemment. Mais à chaque fois qu'on se recentre sur les enjeux familiaux, j'ai le sentiment que l'histoire devient comme une toile de fond. Et je trouve que le scénario abuse des effets de suspense, d'une sorte d'énervement comme ça scénaristique. Et contrairement à Eva, moi je trouve que les effets de mise en scène sont extrêmement voyants. Et ce plan entre guillemets pudique pendant le massacre, où tout à coup la caméra se recule sur un plan de nature extrêmement paisible, je trouve que c'est une manière de surligner la pudeur que je trouve presque grossière.
La voix d'Aïda, c'est donc Yasmina. Non, Zbanić, on n'aura même pas le temps d'évoquer un sixième film que je voulais qu'on... Vous allez juste me dire si, comme moi, il vous a touché. C'est Sans signe particulier, premier long-métrage de la Mexicaine Fernanda Valadez. Film très étrange qui commence de manière très réaliste puisqu'une femme n'a plus de nouvelles de son jeune fils qui était parti avec un copain rejoindre la frontière avec les États-Unis. Elle part à sa recherche et là, elle va rencontrer un autre homme, Miguel, qui lui est expulsé des États-Unis et qui rentre au Mexique, donc dans le sens inverse. Ils vont se croiser et en fait, je trouve que le film est sur ce pays, assommé, gangrené par la mort et la violence. On va pas raconter la fin, mais on est vraiment quasiment dans du surréalisme, mais du surréalisme très noir. Dites-moi juste, mais vraiment quelques mots, Charlotte.
Oui, c'est un tableau effrayant de la violence systémique au Mexique, mais c'est un premier film que je trouve incroyablement maîtrisé, d'une très grande beauté formelle et avec un choc auquel je ne m'attendais pas, à savoir la silhouette de ces deux êtres qui partent à pied un peu en road movie dans l'immensité de ce désert, un désert qui fait peur, avec là encore une violence hors champ, et dans l'immensité de ces paysages, cette confrontation de ces deux petites âmes seules, moi, m'a filé des frissons, vraiment.
Et puis, il faut rappeler qu'elle le montre dans le film, il y a une scène très forte, on passe son temps à être à la recherche des cadavres et des
deux chemins croisés entre donc cette mère qui cherche son fils et un fils qui revient et qui lui cherche sa mère, et je trouve que voilà la rencontre de ces deux, on n'a pas beaucoup de temps malheureusement, mais oui vraiment c'est un film à voir.
Jean-Marc.
Je l'ai pas vu.
Eva.
Je trouve qu'on parle d'habitude de l'immigration avec les problèmes de la frontière avec les États-Unis. Là, elle montre ce qu'il y a avant et qu'on connaît assez peu, le nombre de jeunes migrants qui disparaissent au Mexique même. Et elle arrive à faire, à la fois elle est informative, on apprend beaucoup de choses, et elle arrive à faire passer l'impression de multitude, de vide, d'anonymat. On est même comme dans les guerres, des gens qui n'ont plus d'identité. Ça, c'est très fort. Et il y a une scène à un moment donné où elle va vouloir enterrer quelqu'un pour qu'il ait un nom. Ce qui rejoint une des grandes questions, que toute mort mérite un nom, une sépulture. Il y a un rebondissement à la fin.
Parce que même les flics n'arrivent pas à avoir toutes les photos des victimes.
C'est terrible. C'est-à-dire qu'on en arrive à des gens qui n'ont plus d'identité, qui ne sont plus, qui sont des disparus. Il y a un rebondissement à la fin qui, moi, me mettrait mal à l'aise. Voilà, je ne peux pas en dire plus.
Oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Voilà. Il faut aussi expliquer qu'elle a beaucoup dit, elle est productrice, hein, cette femme. Ouais. C'est son premier film comme réalisatrice, mais elle est productrice. Qu'elle a beaucoup travaillé sur des archives de l'Holocauste avant de penser à scénariser ce film.
Et c'est pour ça qu'elle est sur il faut une identité, il faut un nom, il faut une sépulture.
Michel.
Moi, je trouve que c'est un film magnifique, un premier film. Alors, je voudrais dire aux auditeurs d'aller au cinéma parce qu'il y a un vrai problème aujourd'hui.
Pourquoi?
De fréquentation. Parce que le cinéma d'auteur ne marche pas bien. Et quand on voit la richesse même de cette émission, le nombre de bons films dont on a parlé, et surtout des films comme au départ un peu problématiques, un film mexicain, premier film, etc. C'est un film extraordinaire qui combine les deux aspects de la culture latino-américaine, c'est-à-dire d'une part le réalisme très dur, et d'autre part le réalisme magique des grands romanciers latino-américains.
Religieux.
La deuxième partie devient de plus en plus fantastique. Et c'est un film absolument brillantissime, vraiment brillantissime, qu'il faut absolument découvrir. Mais beaucoup de choses ont été dites.
Mais donc, c'est vrai que il y a une tendance pour l'instant du public à aller, mais vraiment en masse, vers certains films, mais à ignorer totalement les autres. Donc tu as raison de dire qu'il faut aussi aller voir des films qui ont peut-être moins de visibilité.
Et qui nous parlent du monde d'aujourd'hui.
Qui sont très importants.
On voit Srebrenica, on voit là le Mexique, le rôle de la drogue, les cartels, la recherche des corps, il y a des milliers de disparus chaque année au Mexique, mais tout ça est incarné, c'est pas un dossier du tout, c'est le contraire d'un dossier.
Non, c'est très très incarné, et avec cette chose qu'on voit quand même rarement au cinéma, c'est un désert anxiogène. C'est-à-dire que moi, je trouve le film très oppressant et très anxiogène, alors qu'on est dans des paysages absolument majestueux. Et il faut dire un mot de Mercedes Hernandez, la comédienne.
Et lui, d'ailleurs, David Illescas aussi, qui est très, très bien.
Ils sont absolument formidables.
On a la recherche des corps aussi bien dans ce film-là que dans le film qui parle de Srebrenica.
Sans signe particulier, ce premier film signé Fernanda Valadez, qui est donc mexicaine. Allez, on va pousser un peu les gens à aller voir d'autres films que Dune et Kaamelott, et je pense que vous êtes venus avec des bonnes idées et des bons choix. On va commencer avec Eva.
Alors, il va y avoir un festival du cinéma israélien du 4 au 11 octobre à Paris. J'ai repéré, dans ce que j'ai pu voir à l'avance, deux films vraiment intéressants autour de personnages de femmes et de couples mère-enfant. Asia, de Ruti Pribar, qui a été couvert de l'équivalent des Césars israéliens. Il les a eu tous, dont meilleur film. Une mère qui a eu un enfant très jeune, elle a 35 ans, sa fille en a 16. Et nous allons nous retrouver face à la problématique de la fin de vie, enfin une maladie qui doit être comme la mucoviscidose, on finit par mourir en étouffant. C'est à la fois, c'est très bref.
C'est bien, c'est des conseils agréables pour la fin de
l'émission. C'est vraiment bien.
Mais le problème, c'est qu'il faut, aller dans ce festival pour le voir, ou il va sortir en salle.
Il faut aller dans ce festival pour le voir, et il sortira peut-être après. Oui, mais il faut aussi montrer des choses un peu autres que ce qu'il y a sur les... Et il y a dans ce festival un autre film qui est très bien, qui s'appelle God of the Piano de Itai Gal. C'est l'histoire de l'échange d'enfants, pas à la manière chatiaise, plutôt plus proche de Kore-eda. Il faut que mon fils, quand il avait fait tel père et tel fils, il faut que mon enfant soit au moins aussi brillant que moi. C'est une femme concertiste qui ne peut pas admettre l'idée qu'elle a mis au monde un enfant sourd. Et donc, elle l'échange et elle veut faire de cet autre enfant un génie du piano.
Bon, voilà. Enfin, elle met pas fin à ses jours, là.
C'est des films brefs et ils sont vraiment... Enfin, j'aime beaucoup le cinéma israélien, qui est un cinéma très doux.
Le conseil de Michel, lecture, évidemment, de la revue Positif. Michel.
Alors, c'est un livre de Jean Narboni, chez Capricci.
Un livre. Moi, je te demande des films, tu me donnes un livre.
Ça fait partie des conseils. Il faut lire des livres sur le cinéma. Un livre absolument passionnant qui s'appelle La Grande Illusion de Céline. On parle beaucoup de Céline en ce moment, on en parle tout le temps, mais avec la découverte de ses manuscrits, etc. Mais il est parti d'un passage de Bagatelle pour un massacre où Céline se déchaîne contre la grande illusion de Renoir, et en particulier sur le personnage du lieutenant Rosenthal, qui est joué par Dalliot, dont il dit c'est un abject gibier de réverbère. Et à partir de là, Narboni décline un certain nombre de réflexions sur justement la représentation de l'occupation à travers Monsieur Klein, les romans de Modiano, d'autres films sur l'occupation, Pasolini sur Céline, etc. C'est absolument passionnant. Et surtout, on voit la haine de Céline contre Renoir, ce qui est d'autant plus paradoxal que Renoir lui-même était très antisémite. En 40, il a écrit une lettre contre les Juifs en France à Tixier-Vignancourt.
Alors, c'est un peu paradoxal. Il est trop tard pour raconter toute l'histoire de Céline et l'histoire de Renoir.
Mais en tout cas, ce livre est passionnant. Jean Narboni, La grande illusion de Céline chez Capricci.
Et que vous avez le droit de lire en rentrant
du cinéma.
Charlotte.
Alors moi, je vous conseille un grand bol d'air pur et prendre de la hauteur avec Le sommet des dieux de Patrick Imbert. Film d'animation magnifique, adapté du manga.
C'est presque plus que...
C'est tout. C'est l'exploit humain, c'est le dépassement de soi et c'est le mystère de pourquoi on s'obstine à risquer sa mort pour donc gravir l'Everest, puisque Le sommet des dieux, c'est l'Everest. Le film est adapté d'un manga fleuve de plus de 1000 pages de Taniguchi, qui est très célèbre. Et là, l'intrigue se resserre autour de deux personnages, à savoir un alpiniste un peu solitaire et obstiné et un journaliste qui enquête sur l'un des plus grands mystères de l'histoire de l'alpinisme, puisque l'Everest a été gravi pour la première fois en 53, mais peut-être qu'un Anglais l'a fait 30 ans auparavant, c'était Mallory. Ça, c'est l'histoire vraie. Ce Mallory n'est jamais redescendu, il est mort en pleine montagne, mais il avait un appareil photo sur lui. Et quand on a retrouvé son corps bien des années après, l'appareil photo a disparu. Appareil photo qui aurait pu prouver que peut-être il était le premier homme à avoir gravi l'Everest. Bref, c'est un film magnifique, pas pour les enfants, je le précise, c'est quand même vraiment pour les adultes.
Le dessin est magnifique.
Ah, cette fameuse ligne claire, c'est magnifique. Et on éprouve presque une sensation de vertige en le regardant.
Ça, c'est peut-être un peu excessif, mais en tout cas, le dessin est vraiment magnifique.
Ah non, quand même.
Très bon choix. Jean-Marc, pour finir. Ouais,
désolé, Jérôme, je vais parler aussi d'un événement parisien. C'est la rétrospective à la Cinémathèque française de Luc Moulet. Luc Moulet, c'est un peu le cadet de la Nouvelle Vague. Il est encore critique lorsque la Nouvelle Vague explose, critique au Cahier du Cinéma. Il fait des films dans les années 60, il a fait 10 longs métrages. Il a développé un style à la fois minimaliste et extrêmement cocasse, qui en fait un cinéaste d'une originalité, d'une fantaisie assez unique. Et pour les non-parisiens, il faut signaler que les nombreux courts-métrages de Luc Moulet sont aussi édités dans un coffret DVD, et qu'il faut les découvrir parce que ces courts-métrages sont aussi réjouissants que ces longs-métrages.
Tous ces conseils, vous les retrouvez bien sûr sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Et surtout, allez au cinéma. Merci Charlotte Lipinska, Eva Bétan, Michel Simon, Jean-Marc Lalanne pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin. Avec la collaboration de Lisiane Selam, et ce soir au théâtre de l'Alliance Française. À la technique, il y avait, et je les remercie, Philippe Mercher, Corentin Bailly, Tar Bouklifa. La réalisation a été signée Xavier Pestugia. Notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du Masque, c'est le 7 octobre, à partir de 19h, au théâtre de l'Alliance Française, 101 boulevard Raspail, dans le 6e à Paris, pour deux émissions, l'une consacrée à la littérature et l'autre au cinéma, dans une semaine. Et oui, on parle de théâtre. Je vous dis à dimanche prochain, sur France Inter, évidemment.